France Inter.
Et bonjour à tous. Story Killer, c'est le nom de la grande enquête à laquelle la cellule investigation de Radio France a participé pendant plus de 6 mois et dont les révélations ont été publiées cette semaine. Elle montre que la désinformation est devenue une industrie qui s'appuie sur des outils technologiques extrêmement performants qui permettent de détruire des réputations ou de manipuler des scrutins. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous allez donc nous faire pénétrer dans ce monde secret de ces officines et pour cela, vous allez notamment nous emmener en Israël.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
L'Union européenne annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie. La Commission européenne avait proposé d'ajouter 200 individus et institutions à la liste noire, notamment 3 banques russes. Des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts à Monaco. Tous ceux qui ont travaillé avec les oligarques sanctionnés pourraient l'être à leur tour. 10 000 emplois sont en jeu sur la Côte d'Azur.
Voilà, c'était en septembre 2022. Le présentateur de BFM TV, Rachid Embarki, fait état, vous l'entendez, de l'inquiétude qui régnerait à Monaco après l'annonce des sanctions visant les oligarques russes et il livre ce chiffre fantaisiste de 10 000 emplois menacés. C'est cette information qui lui a valu d'ailleurs d'être suspendu de l'antenne. Or, il se trouve que nous sommes indirectement à l'origine de cette sanction. C'est en effet un consortium de 100 journalistes issus de 30 médias internationaux qui a découvert qu'un employé de BFM TV diffusait des informations biaisées qui correspondaient en fait à des commandes de clients qui avaient été payés pour cela. Alors on va vous expliquer tout ça en détail, vous allez comprendre. Mais pour comprendre en fait comment cette affaire a commencé, bien il faut d'abord faire un détour par l'Inde. Parce que c'est de là que tout est parti, nous dit Sandrine Rigaud, qui est la rédactrice en chef de Forbidden Stories, qui a coordonné notre consortium.
On a commencé cette enquête sur la désinformation par le meurtre de Gauri Lankesh, une journaliste indienne, qui a été assassinée en septembre 2017. Et avant sa mort, elle avait écrit une très longue enquête qu'elle n'avait jamais pu publier, qui s'appelait « À l'ère des fausses informations ». Elle avait identifié des acteurs de la désinformation. Elle voulait écrire là-dessus et elle n'a pas eu le temps de le faire parce qu'elle a été assassinée. Et on s'est rendu compte que l'homme qui avait appuyé sur la gâchette avait subi un lavage de cerveau. Et on lui avait passé en boucle une vidéo de Gauri Lankesh dans laquelle son discours et son propos sur la religion avait été dénaturé pour la faire passer pour une ennemie de la religion. Et Gauri faisait elle-même l'objet d'attaques extrêmement violentes sur les réseaux sociaux. Elle était traitée comme beaucoup d'ailleurs de journalistes femmes, de prostitutes, et de choses encore beaucoup plus violentes. Donc il était très important pour nous de repartir de son travail. Et évidemment, tout ça nous a amené beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, la désinformation est un business global. Et on se retrouve face à des entreprises qui offrent des services ultra sophistiqués et se vendent au plus offrant.
Oui, ces entreprises, Frédéric Mettezo, nous en avons identifié quelques-unes et l'une d'entre elles, et pas la moindre d'ailleurs, se trouve en Israël.
Oui, et c'est une entreprise anonyme. Quand vous discutez avec ses employés sur Zoom, ils ne donnent que des pseudos comme prénom et parfois même, ils cachent leur visage. Dans les bureaux, c'est la même chose. Une zone d'activité sans charme, de modine entre Tel Aviv et Jérusalem. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres ou sur la porte.
Et comment vous l'avez trouvé alors ?
En fait, c'est du bouche à oreille, c'est une connaissance de connaissance qui nous met sur la piste, moi-même et 2 journalistes israéliens, Gour Megiddo de The Marker et Omer Ben Jacob de Haaretz.
Et alors, quand on a affaire à une société occulte, donc qui n'a pas d'existence légale, Frédéric, comment on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur ?
Alors voilà, c'est la spécificité de cette enquête, on a dû y aller sous couverture. Nous nous sommes donc présentés comme des consultants pour des clients potentiels. Et là, nous rencontrons assez vite le chef surnommé Jorge, c'est Georges en espagnol, Jorge. Plus tard, on va découvrir qu'il s'appelle Tal Hanan et qu'il a une longue carrière dans l'armée israélienne. Il travaille avec des collègues qui, eux, ont opéré dans les services de renseignement israéliens.
Donc vous entrez en contact avec eux. Et alors, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce qui se passe?
La première découverte, des compétences high-tech assez exceptionnelles. Ils disposent par exemple d'une plateforme informatique qui s'appelle AIMS. Elle a fabriqué et elle active encore 39 000 faux profils Twitter ou Facebook qui ont l'air complètement vrais. Ces profils ont un prénom, un nom, une photo, comme nous l'explique Jorge lui-même.
This is our platform that we developed for online impact.
C'est une plateforme que nous avons développée pour avoir un impact en ligne. Vous voyez ici que nous avons actuellement 31 726 profils fonctionnant sur notre système. Nous avons des Arabes, des Russes, des Suisses, des Asiatiques, de tout. Et je vais vous montrer maintenant un avatar, un profil. Vous allez comprendre. Regardez ça. Je vais sur le Gmail de ce profil. Le premier email reçu date de juin 2020. Donc, celle-là, déjà 2 ans, vous voyez. Shannon, c'est une Américaine. Elle a 400 et quelques amis. Elle fait des posts, des likes. Elle a un compte Twitter. Dans certains pays, Twitter n'est pas très important. Mais ça compte parce que les politiciens, les journalistes sont toujours dessus.
Ah oui, donc on gère un catalogue de 39 000 faux comptes sur les réseaux sociaux?
Oui, et c'est même plus que ça. Ces comptes se comportent comme s'ils étaient de vraies personnes avec des interactions qui vont les rendre les plus humains possibles. Pour nous le montrer, Jorge prend l'exemple de Shannon, une femme qui fait partie de ces faux comptes.
This one has Telegram.
Elle a un compte Telegram. Elle est sur Facebook, sur Instagram, et d'un seul clic, tout est connecté. Je n'ai pas besoin des informations d'identification ou de tout ça. Non, non, non. Nous avons aussi un porte-monnaie crypté en ligne. Elle a Amazon. Bonjour Shannon.
Hello Shannon.
Et elle a même une carte de crédit.
She has a credit card.
Ah oui, donc ces faux comptes sont plus vrais que nature.
Ah oui, exactement. Hein. On crée des avatars à la carte, un peu comme quand vous composez votre pizza emportée avec tous ses ingrédients. Mmh. Et c'est justement ce que fait Jorge sous nos yeux en fabriquant un faux profil.
Let's make one candidate together.
Créons une candidate ensemble. Royaume-Uni, femme, lançons une recherche, Isla Sawyer. J'aime pas trop ce nom.
Sophie Wilde, I like the name, British.
Sophia Wilde, j'aime ce nom, ça fait British. De quelle ville vient cette dame? Leeds? Non, elle est de Londres. Elle a déjà un email, une date de naissance, tout. Maintenant, je veux mettre une série de photos ID. Ok, celle-là fait British. Je la mets en photo de profil. Maintenant, je termine. J'ai créé Sophie Wilde. Elle a même une empreinte digitale. Je lui ai généré un numéro de téléphone britannique. Et si je lui envoie un SMS, je recevrai ce SMS et j'activerai le compte moi-même. Elle peut même s'ouvrir un compte. Airbnb, Amazon, Burger King. Dites-moi ce que vous voulez ouvrir. Facebook. Tous ces comptes sont authentifiés.
C'est hallucinant, hein. Donc Sophie Wilde a une vie sur Internet, ce qu'on entend, mais en fait elle n'existe pas. Mais Frédéric, il n'y a vraiment aucun moyen de faire la différence entre un de ces avatars et une vraie personne?
Eh bien non, cette plateforme AIMS est technologiquement très sophistiquée, c'est ça qui est assez fou. Et ça a surpris notre confrère du Monde, Damien Leloup, qui est journaliste d'investigation au service Pixel du journal et qui a travaillé avec nous sur le projet Story Killers.
Alors on a été très surpris et très impressionné d'une certaine manière par le degré de sophistication technique de la plateforme et notamment par les mesures mises en place par AIMS pour échapper aux mesures de détection des grandes plateformes et notamment de Facebook. Au fil des années, Facebook, ils ont développé tout un tas de systèmes pour détecter les comportements inauthentiques, comme ils les appellent. Et là, on a vu très clairement dans l'interface d'AIMS qu'ils ont parfaitement intégré cette contrainte, qu'ils connaissent très bien le fonctionnement des outils de détection automatique de Facebook et qu'ils ont mis en place des modalités techniques très élaborées pour éviter de se faire détecter. AIMS, en fait, est capable de générer ce type d'éléments techniques et de les conserver automatiquement pour se faire passer pour un humain.
Ouais, donc cette plateforme AIMS est d'une efficacité redoutable, hein, et vous avez d'ailleurs pu le vérifier vous-même.
Effectivement, en tant que potentiel client, nous voulions être sûrs que ça n'était pas juste des belles simulations. Alors, pour nous prouver qu'il disait vrai, Jorge a diffusé une fausse nouvelle. La mort d'un émeu, c'est un genre d'autruche, il en existe une aux États-Unis, qui s'appelle Emmanuel et qui est très populaire sur Twitter. Ames a donc diffusé la nouvelle de sa mort avec ses faux comptes et en quelques heures, figurez-vous que la nouvelle a été viralisée et qu'elle est devenue une tendance Twitter dans certains pays, au point que la propriétaire d'Emmanuel a dû démentir la mort de son volatile.
Ouais, bon là c'était une info sans trop de conséquences, mais le problème c'est que ces avatars, Frédéric, ils servent aussi à des choses beaucoup plus graves.
Ah oui, ces 39 000 avatars servent à répercuter des messages autrement plus problématiques, à faire des campagnes, par exemple, pour détruire une réputation ou pour en améliorer une. Mais l'équipe de Jorge s'est surtout spécialisée dans les campagnes électorales.
Les élections, pour nous, c'est la combinaison parfaite de toutes les capacités technologiques en matière de connaissances et d'expériences dont nous disposons. Nous fournissons un service. C'est principalement du renseignement et de l'influence. Et bien sûr, dans une élection, les deux fonctionnent très bien ensemble. Nous faisons tout de A à Z, mais souvent les clients ne veulent pas que nous fassions partie de la campagne officielle du parti. Vous savez, ils ont des tas de comités et tout ça. Généralement, nous aimons agir dans l'ombre, et c'est ce qui fait notre force. Les autres, en face, ne savent pas qu'on existe.
Et on sait dans quelle campagne ils sont intervenus ?
Eh bien, Jorge affirme être intervenu dans la campagne de Macky Sall au Sénégal en 2019, mais aussi une autre au Nigeria en 2015. Il se vante même d'avoir piraté le site de la commission électorale lors de la dernière présidentielle en Indonésie. En fait, le nombre de campagnes qu'il revendique donne un peu le tournis.
Notre bilan, ce sont 33 campagnes présidentielles différentes, les deux tiers en Afrique anglophone et francophone, 27 victorieuses. Donc, juste pour vous donner un exemple, c'était dans les journaux il y a quelques jours, nous sommes impliqués dans une élection en Afrique et pour cela, nous avons une équipe en Grèce et une autre aux Émirats Arabes Unis.
Des équipes qui travaillent donc de là-bas sur l'Afrique, hein, c'est ce qu'on comprend. Mais on sait de quelle élection en Afrique ils parlent, là ?
Oui, on sait. Nous avons identifié cette campagne. C'est la présidentielle au Kenya qui a eu lieu en août 2022, l'été dernier, juste quand nous avons rencontré Jorge. Cette élection a en effet été entachée d'intox, de manipulation, de manifestations violentes. Et là-bas, les tensions politiques sont encore vives. Et d'ailleurs... La presse kényane a donné énormément d'écho depuis 3 jours à nos révélations.
Oui, mais apparemment, l'équipe de Jorge intervient aussi bien plus près de chez nous.
Et oui, la team Jorge se vante aussi d'avoir perturbé le référendum sur l'indépendance de la Catalogne en 2014. Et il en veut pour preuve, Jorge, ce qu'a relaté la presse à ce sujet.
C'est en Europe, pas très loin de chez vous. Vous comprenez, c'est du catalan. Attaque informatique de niveau mondial. Ça date de 2014, le 9 novembre. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez le flux Internet ? Il y a un flux sur les États-Unis et tout le reste des flux va où ? Vers un pays bien spécifique où ce jour-là, il y avait un référendum.
Et ce pays, donc, c'est l'Espagne, hein, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Mais c'est quoi l'objectif de ces campagnes, Frédéric ? C'est convaincre les gens de voter pour un camp ?
Ou même faire reporter le scrutin, car en Espagne, certains avaient tout intérêt à ce que ce référendum n'ait pas lieu, car ça aurait pu déboucher sur la dislocation du royaume, qui aurait perdu en plus sa région la plus riche.
Mais perturber un scrutin, disons les choses, ça s'appelle du sabotage.
Et il n'y a pas d'autre mot, mais ça va même encore plus loin. Jorge et ses collègues, par exemple, peuvent pirater des comptes Telegram, des boîtes Gmail. Nous les avons vus opérer en direct, et ça a été utilisé lors du dernier scrutin au Kenya, ou encore au Mozambique.
Et ils affirment qu'ils peuvent aussi réaliser des écoutes téléphoniques.
Ah oui, et là on a même le tarif, 50 000 euros par individu ciblé. Pour ça, l'officine explique avoir besoin de recruter des complices chez des opérateurs de télécom et nous avons pu établir que ça s'est vraiment passé au Nigeria.
Ouais, d'ailleurs, ces opérateurs complices, ils ne servent pas qu'à faire des écoutes.
Et non, cela permet aussi d'envoyer des SMS par milliers pour diffuser des messages politiques sur les smartphones, mais cela va encore plus loin, on organise même parfois de véritables raids informatiques.
To postpone election, something can happen.
Pour reporter une élection, il faut que quelque chose se passe. Peut-être que le système informatique peut crasher, peut-être que les inscriptions ne fonctionnent pas. Imaginons, 6 heures du matin, le jour du scrutin, il faut mobiliser, il faut parler aux gens pour les faire venir, il faut préparer des voitures, des autocars. Et à 6 heures du matin, tout s'arrête de fonctionner. Le jour J, les centres d'appel s'arrêtent, les téléphones portables s'arrêtent, certains systèmes plantent, comme leurs applications pour les militants. Je peux vous le dire, en Asie, 47 000 volontaires travaillent avec une appli censée, le jour J, leur dire où aller pour faire voter les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé à 6 heures du matin? L'appli n'a pas fonctionné. Voilà, donc ce qu'on a fait.
Oui, ce qu'on a fait, c'est donc exaucer le souhait d'un client hein, qui souhaite déstabiliser son adversaire. Pas seulement d'ailleurs forcément des adversaires politiques.
Oui, parce que grâce à la démonstration que Jorge nous a faite avec la fausse mort de l'autruche, eh bien, on a pu observer quels étaient les comptes Twitter ou autres qui étaient activés. Et en analysant les profils, notre consortium a pu établir qu'ils avaient agi dans bien d'autres campagnes, des campagnes qu'a pu analyser Damien Leloup, notre confrère du Monde.
On en a trouvé environ une vingtaine qu'on a pu confirmer de manière assez ferme. Certains des clients présumés sont plutôt des entreprises ou des hommes d'affaires qui cherchent à nuire à un concurrent ou à redorer leur image après un scandale ou des problèmes judiciaires. Il y a aussi un certain nombre de campagnes qui sont plus directement politiques, soit pour le compte de candidats à des élections, soit pour des sujets, on va dire, sociétaux ou géopolitiques. Par exemple, on a une campagne assez importante qui concerne les sanctions contre les oligarques russes en Europe et plus particulièrement en France, une campagne assez élaborée qui dénonce ces sanctions en les présentant comme contre-productives, injustes, nuisant à l'emploi.
Ouais, ces sanctions contre les oligarques, justement. Parlons-en parce qu'elles nous amènent enfin à BFM TV, puisque c'est sur BFM TV qu'on a diffusé ce genre d'infos.
Oui, alors là, Jacques, il faut imaginer la scène. Non seulement Jorge nous raconte qu'il agit sur Internet, mais il nous affirme qu'il est aussi capable de faire diffuser une information payée par son client sur une télévision française. Il s'en vante et voilà la séquence qu'il nous diffuse.
So this is Real TV in French. They are quoting.
C'est la télé française, c'est ce qu'il nous dit.
Oui, Real TV, TV française. Et il parle des sanctions européennes contre les oligarques, justement.
Voilà.
Ah, c'est Rachid Mbarki, là, c'est le journaliste de BFM TV.
Des sanctions à répétition qui font craindre le pire.
Donc ça, c'est dans le bureau de Jorge ?
Exactement, sur son ordinateur.
Et c'est la phrase, enfin, c'est la tirade qu'on entendait au début de notre émission.
Donc, là.
Et donc Jorge, vous l'entendez, il répète oligarque, Monaco. Le message est clair, les sanctions contre les oligarques russes sont une mauvaise idée car la saisie des yachts va mettre à mal l'industrie du nautisme sur la Côte d'Azur.
On imagine d'où ça vient. Et Jorge donc se vante d'être à l'origine de cette diffusion.
Ah oui, il l'assume complètement.
Mais quel intérêt de faire diffuser un message en pleine nuit sur une chaîne française alors que quasiment personne ne la regarde à ce moment-là?
Alors ça a deux avantages. Un, les Israéliens isolent la vidéo et la diffusent massivement sur les réseaux sociaux grâce à leur plateforme AIMS pour viraliser le message. Ils le blanchissent en quelque sorte en montrant qu'il est passé dans un vrai média. Et deux, ils peuvent se vanter d'avoir le bras long et quelqu'un dans la première chaîne d'info de France.
Mais comment une société basée en Israël arrive à faire diffuser des infos sur une chaîne parisienne ?
Alors attention, tout ça est très cloisonné. Le journaliste Rachid Mbarki a été sollicité par un intermédiaire. Il s'appelle Jean-Pierre Dution.
Et c'est qui Jean-Pierre Dution ?
Alors Jean-Pierre Dution, c'est un ancien entrepreneur installé en Syrie pendant plusieurs années où il a aidé beaucoup de reporters à travailler sur place pendant la guerre civile. Aujourd'hui, c'est un lobbyiste très introduit à Paris. Il vend, entre guillemets, des sujets pour ses clients. Et ça, eh ben ça, il l'assume parfaitement, comme il l'a dit à Cécile Andrzejewski de Forbidden Stories.
Est-ce qu'on est d'accord qu'une société qui est spécialisée dans le yachting, qui se retrouve avec une incapacité de pouvoir fournir des services pour des raisons de sanctions, est-ce qu'on est d'accord que cette société-là est déficitaire et va être amenée à fermer ses portes ? Oui.
Et du coup, cette société-là en question a intérêt à faire passer ce genre de campagne sur des chaînes télé comme BFM, par exemple.
Ou autre, parce que BFM TV, c'est devenu l'agneau sacrificiel. Vous imaginez bien qu'il y a 10 à 15 articles qui passent par semaine, rien que par mois, imaginez par d'autres. C'est-à-dire, on est en train de découvrir que des agences de com, dont l'objectif est de placer des sujets, ce qu'ils font à longueur de journée, eh bien, y arrivent.
Elles y arrivent, mais est-ce que le journaliste de BFM TV, Frédéric, a été payé pour ça ?
Alors lui, il dément, et Jean-Pierre Dution aussi. Mais nous avons appris que ça se fait. Plusieurs personnes nous ont dit que ce type d'opération est généralement facturé 20 000 euros aux clients au total, dont 3 000 peuvent être reversés aux journalistes en bout de chaîne.
Ah oui, donc on a d'un côté le client qui s'adresse à la société israélienne, Roche, qui elle-même a réussi à activer Jean-Pierre Dution, qui lui contacte le journaliste de BFM TV.
C'est ça, mais la chaîne peut être encore plus complexe, vous savez, c'est un univers d'intermédiaires, et Jean-Pierre Dution, lui, nous a affirmé qu'il ne connaissait pas Roche et qu'il ne sait même pas pour qui il travaille en fait.
Je reçois des missions. Et ces missions-là, je ne sais pas qui est le client final, ça ne m'intéresse pas. Et je fais ce qu'on me dit de faire. Je ne me pose pas de questions, je n'ai pas d'éthique, je n'ai pas de déontologie, je n'ai pas de réflexion à avoir par rapport à ce qu'on me donne. Je suis comme l'armée américaine par rapport à l'homosexualité, don't ask, don't tell. Voilà. Ne demandez pas, ne dites pas. Le fait est, c'est que moins j'en sais, mieux je me porte.
Bon, et du côté de la direction de BFM TV, on en dit quoi de tout ça ?
Alors d'abord, il faut préciser que c'est nous qui avons alerté Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV, pour l'informer de nos découvertes et pour lui demander des explications. Ensuite, c'est après notre intervention qu'il a convoqué puis suspendu Rachid Embarki. Écoutez-le, Marc-Olivier Fogiel, nous expliquer comment il a réagi.
Quand vous m'appelez et que vous m'envoyez des vidéos concernant ces brefs qui sont problématiques, à ce stade, ça reste pour moi des soupçons d'ingérence. J'ai pas les infos que vous avez dans le cadre de votre enquête. Je regarde ces infos et je me demande si elles ont leur place ou pas sur BFM TV. Et force est de constater que les quelques vidéos que vous m'envoyez ne sont traitées que dans le cadre de ce journal de la nuit, qu'a priori, rien ne les ramène à l'actualité que nous, nous traitons sur BFM TV. Et derrière ça, c'est suffisamment problématique pour que nous lancions un audit qui essaye de décortiquer tout ça et essayer de comprendre comment ces brèves arrivent à l'antenne, comment elles sont illustrées, par quel biais la hiérarchie a été contournée. Mais à ce stade, il s'agirait plutôt de quelqu'un qui agit tout seul, qui décide de passer donc ces brèves à l'antenne et qui court-circuite la chaîne hiérarchique.
Mais comment elles ont pu passer à l'antenne ces brèves ? Comment on peut court-circuiter la chaîne hiérarchique ?
Eh bien ça aussi, Marc-Olivier Fogiel me l'a expliqué.
Le journaliste mis en cause, en gros, s'arrangeait pour demander ces images en dernière minute, une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche, et après qu'il ait validé l'ensemble de son journal. Donc, il se serait adressé, l'audit interne est là pour le déterminer, à des équipes qui n'étaient pas nécessairement des équipes de titulaires, mais plutôt, par exemple, des pigistes ou des alternants.
Et Marc-Olivier Fogiel se réserve le droit de porter plainte, considérant que sa chaîne est une victime dans cette affaire. Il attend les conclusions de l'audit lancé en interne pour prendre sa décision.
Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors après avoir vu comment une officine israélienne propose de manipuler l'opinion grâce aux réseaux sociaux notamment, eh bien on va voir qu'il existe en Israël une autre société de ce type, Frédéric Mettezo, qui elle a une apparence tout à fait respectable.
Oui, alors celle-là, elle s'appelle Percepto International, c'est une société de communication et relations publiques. Elle est légale, elle a des bureaux bien identifiés dans une tour de verre du quartier d'affaires de Ramat Gan près de Tel Aviv. Elle a même un site internet où elle présente ses activités et ses salariés.
Et il y a qui dans cette société ?
Alors d'abord, il y a Lior Horef, le cofondateur de Percepto, qui a été aussi conseiller stratégique du Premier ministre Ariel Sharon. À sa tête, à la tête de Percepto, il y a aussi Roy Burstein. Il a passé 27 ans dans l'armée israélienne et avant, il dirigeait Sai Group, c'est une société qui a été fermée après des soupçons d'ingérence lors de l'élection de Donald Trump.
Oui, ce qui est intéressant, Frédéric, c'est que Percepto, en fait, a un double visage.
Ah oui, publiquement et sur Internet, elle alerte sur les dangers de la désinformation et dénonce les manipulations en ligne. Mais dans l'ombre, eh bien, elle est elle aussi spécialisée dans les campagnes qui permettent de détruire des réputations ou au contraire de les améliorer.
Et comme elle agit dans l'ombre, bah là encore, vous avez dû, vous, pour en savoir plus, avancer à visage masqué.
Oui, une fois de plus, nous nous sommes fait passer pour des potentiels clients. On a expliqué qu'on représentait une entreprise française qui voulait détruire la réputation d'un concurrent français implanté en Afrique. Et une fois en confiance, Roy Burstein nous a avoué que lui aussi avait recours à des faux profils, des avatars profonds ou des deep avatars, comme on dit en anglais. Écoutez ce qu'il nous a expliqué précisément.
Le deep avatar, c'est une entité en ligne qui a l'air réelle, mais n'est pas vraiment réelle. Si l'un de nos deep avatars entre en contact avec vous, vous êtes persuadé que c'est une vraie personne. C'est ça, le deep avatar. Nous en avons créé pour un gouvernement qui fait partie de nos clients, pour des ONG aussi en Afrique, que nous contrôlons et qui font la promotion de notre client sans même s'en rendre compte. Mais ces avatars semblent réels et nous embauchons donc aussi de vraies personnes sur le terrain qui ne savent pas qui les rémunère.
Donc les avatars vont même jusqu'à recruter de vraies personnes, y compris dans des ONG.
Ouais, c'est ça. Et tout se passe en ligne. Mais ces deep avatars ne sont pas des robots ou des intelligences artificielles, non. Ils sont actionnés par des vrais humains et donc ils interagissent avec les utilisateurs. Par exemple, quelqu'un répond vraiment aux mails ou aux appels téléphoniques, mais sous une fausse identité. Et Percepto a même créé des faux profils de journalistes d'investigation.
C'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, ils ont inventé Anita Petit et Chloé Boyer, spécialisées sur l'Afrique et particulièrement sur le Burkina Faso. En fait, elles n'existent pas. Et d'ailleurs, depuis nos révélations, Facebook a supprimé le compte d'Anita Petit.
Oui, là encore, on gère ces avatars avec des logiciels assez sophistiqués.
Oui, et ça nous rappelle Ames chez Tim Jorge. Mais Percepto n'a pas développé sa propre plateforme. Il s'appuie plutôt sur des logiciels existants, adaptés aux pays dans lesquels la société intervient.
Nous avons un système de gestion des avatars car nous avons besoin d'agir en Afrique. Cameroun, Sénégal, Burkina Faso, les locaux ont besoin de voir que nous agissons comme des Sénégalais ou des Camerounais. Donc en Afrique, ce qui est pertinent aujourd'hui, c'est d'abord Facebook. TikTok est utilisé de plus en plus fréquemment. Tout le monde en Afrique utilise WhatsApp. Et on commence à voir de plus en plus Telegram dans certains cas.
Et vous avez pu constater que Percepto est effectivement très impliqué en Afrique.
Oui, vous vous souvenez Jacques, On s'était présenté comme une entreprise française voulant nuire à un concurrent français installé en Afrique. Ouais. Mais comment l'attaquer ? Avec quel discours ? C'est ce qu'on demande à Roy Burstein et ce qu'il nous propose est juste saisissant.
Beaucoup de gens en Afrique francophone détestent les Français, largement. Et il serait très simple, relativement simple, de surfer sur ce discours anti-français et d'y associer l'image de la compagnie rivale. Même s'il n'y a plus de colonisation, la compagnie rivale deviendrait l'incarnation du colonialisme dans nos pays. L'un des principaux Africains opposés au colonialisme français, Léa, comment s'appelle-t-il ? Kémi Séba, c'est ça ?
Kémi Séba, ok.
Oui.
On peut entrer anonymement en contact avec Kémi Séba et lui demander d'être un élément de toute cette campagne. Et Léa, en fait, a toute une cartographie avec beaucoup de ses influenceurs anti-français en Afrique francophone. Donc, si on décide que c'est l'idée la plus pertinente, on peut en utiliser comme des outils d'influence.
Donc on vous propose de recruter un influenceur africain anti-français grâce à un avatar.
C'est ça, et pour cela, Percepto a recruté 3 salariés d'origine française, ce qui permet de s'adresser en français à ces influenceurs qui, eux, sont convaincus qu'ils ont affaire à une vraie personne.
Non, mais ça paraît complètement fou, votre truc.
Ah oui, précisons bien que c'est un scénario qu'on nous a proposé, mais que nous n'avons pas donné suite à cette proposition. Et du coup, Kémy Séba n'a jamais été sollicité.
Ouais, encore heureux. Hein. Mais des campagnes de ce type qui, elles, ont réellement eu lieu, Frédéric, vous en avez identifié quelques-unes.
Effectivement, les employés de Percepto nous ont présenté des documents très détaillés d'une campagne organisée contre le Comité international de la Croix-Rouge en 2020 à la demande de l'entourage de Roch Kaboré qui était alors président du Burkina Faso.
Mais pourquoi s'en prendre à la Croix-Rouge ?
Parce qu'à cette époque, le CICR, la Croix-Rouge, n'hésite pas à dénoncer les abus du régime. Le gouvernement en a donc assez et il sollicite en Israël Percepto International pour organiser la contre-offensive. Roy Burstein nous raconte ce qui s'est passé.
Notre client avait un vrai problème avec une ONG en particulier qui n'était pas vraiment objective. Elle nuisait à sa réputation en diffusant des informations subjectives et négatives. Donc la question était comment éviter que cette ONG continue de le dénigrer et comment la mettre sur la touche. Première chose, obtenir des infos. On a obtenu de vraiment bonnes infos, mais on a compris que si on publiait dans les médias locaux, ça n'aurait pas d'écho. Ça n'aurait qu'un effet médiatique réduit. Alors nous avons travaillé avec un média français très respectable. Le processus a pris plus d'un mois pour qu'il valide l'information et publie un papier dessus.
Ouais, qu'il publie un papier, donc un article. Mais c'est qui ce média français ?
Eh bien, c'est l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui se demande dans une tribune le 3 août 2020 si le CICR n'est pas le parrain involontaire du terrorisme au Burkina Faso. Cette tribune, signée du chercheur en géopolitique Emmanuel Dupuis, laisse entendre que la Croix-Rouge aurait des accointances avec des djihadistes. Cette tribune a eu un grand retentissement au Burkina Faso, comme le raconte encore Roy Burstein.
Immédiatement après qu'ils aient publié cet article, nous l'avons publié via nos propres canaux et c'est devenu viral dans le pays. Et ça a aussi été repris par beaucoup de médias européens. C'est une ONG très connue et ça a été repris dans Le Figaro. Le dirigeant de cette ONG s'est alors rendu dans le pays, il a rencontré notre client et il lui a plus ou moins dit « J'ai fait une erreur et je fais marche arrière ». Et on n'a jamais plus entendu parler de cette ONG pendant toute la campagne.
Donc la Croix-Rouge aurait été déstabilisée par cette tribune. Et Emmanuel Dupuis, lui, Frédéric, il reconnaît avoir été, instrumentalisé par Percepto.
Lui nous affirme qu'il ne connaît pas Percepto et qu'il n'a pas été rémunéré pour cela. Il a expliqué à Maxime Tellier qu'il avait été alerté sur ce sujet par un conseiller du président d'alors, Samuel Selem, un franco-israélien.
Monsieur Selem était un conseiller spécial du président de l'époque, Roch Christian Kaboré. Il agissait en tant que conseiller spécial chargé des questions de communication. Il m'a indiqué qu'il y avait là un sujet à intérêt. Je n'ai, je crois, à aucun moment évoqué que les informations proviendraient de lui.
Et est-ce que cette personne aurait pu être un intermédiaire pour cette société israélienne Percepto, éventuellement ?
Alors, premièrement, je vous indique que je ne connais pas la société Percepto. Moi, mon seul contact était M. Ben Salem.
Ouais, donc lui dément avoir été manipulé. Maintenant, prenons un peu de hauteur, Frédéric. Essayons de comprendre comment tout ce qu'on vient de raconter peut exister. Est-ce qu'il est possible déjà, par exemple, d'éviter que les réseaux sociaux soient ainsi dévoyés par des acteurs malveillants ?
Alors c'est difficile à dire. Certes, on pourrait rendre illégale la création des faux comptes et des avatars. La fabrication de faux passeports est interdite, alors pourquoi pas celle de faux profils ? Mais la technologie va tellement vite qu'il sera sans doute quand même très difficile de détecter ces fausses infos. C'est en tout cas ce que pense Damien Leloup, notre confrère du Monde.
On est dans une espèce de course permanente entre les acteurs qui cherchent à désinformer et qui sont de plus en plus sophistiqués et les grandes plateformes qui développent elles aussi des moyens de plus en plus sophistiqués pour tenter de les détecter. Donc il y a toujours cette espèce de course depuis quasiment l'origine de ces réseaux sociaux entre des nouvelles méthodes qui apparaissent, des nouveaux moyens de les bloquer qui apparaissent et du coup de nouvelles méthodes de contournement qui apparaissent et c'est malheureusement je pense quelque chose qui va continuer de se poursuivre.
Oui, Changer les choses semble d'autant plus compliqué, Frédéric, qu'on ne sent pas non plus une grande volonté de la part des régulateurs de s'emparer du problème.
Non, il y a bien le Digital Services Act qui va bientôt entrer en vigueur en Europe, mais il prévoit de rendre illégal sur Internet ce qui est illégal déjà dans la vraie vie. Il ne dit rien des faux comptes, des avatars, voire de l'anonymat sur Internet. Et c'est ce qui fait dire à Laurent Richard, le directeur de Forbidden Stories, qu'il manque une volonté au plus haut niveau pour s'attaquer vraiment à la désinformation.
On est face à des organisations extrêmement structurées, puissantes, et souvent soutenues par le politique aussi. Parce que même des partis politiques les utilisent des bots. On sait que la désinformation a été aussi nourrie par les agendas politiques des uns et des autres. Ça a été pratiqué aux États-Unis dans la dernière élection de Trump, ce sera pratiqué dans la prochaine élection en France. Pour que nos politiques puissent produire des lois qui soient pertinentes là-dessus, faudrait commencer par réglementer chez eux, dans les partis politiques eux-mêmes, l'usage de la désinformation, des campagnes de trolling ou des bots et tout ça.
Et pour conclure, Jacques, n'oublions pas que la désinformation est devenue un business qui sert des intérêts parfois politiques, mais qui répond avant tout à une logique commerciale. Un dernier exemple, Tim Jorge facture jusqu'à 6 millions d'euros, 6 millions, ouais. Le report d'une élection dans un pays d'Afrique.
Ouais, 20 000 euros, on le disait tout à l'heure, pour une brève sur un média, hein. 6 millions pour une élection, ça donne quand même un éventail de clientèle qui est très large. Merci Frédéric Mettezo pour cette enquête absolument époustouflante. Alors je précise qu'on peut la lire, cette enquête, sous forme d'article sur franceinter.fr, avec plusieurs articles d'ailleurs, mais on peut aussi évidemment podcaster cette émission sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert avec à la technique Pauline Laverdure. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.